commentaire.
Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Depuis l'été dernier, la Grèce est enfin sortie des plans de sauvetage dictés par la Troïka. Le Premier ministre Alexis Tsipras a aussitôt annoncé une mesure très attendue par les Grecs, la hausse du salaire minimum. Si on ne connaît pas encore le montant de cette hausse, on sait qu'en 2012, le gouvernement de l'époque l'avait brutalement abaissé de 22% pour l'ensemble des travailleurs et de 32% pour les moins de 25 ans. 8 ans plus tard, les dégâts pour l'économie et la cohésion sociale sont bien visibles. Reportage Charlotte Siemnard.
Dans ce café du quartier de Gouzi, à Athènes, l'ambiance est animée. Assis à une table en terrasse, cet étudiant parle de ses factures impayées avec ses amis.
Je m'appelle Dimitris, j'ai 26 ans. Je travaille dans un café, c'est un travail à temps partiel. En parallèle, j'étudie, j'essaye d'obtenir mon diplôme. Mon contrat est de 4 heures par jour, mais cela peut monter jusqu'à 39 heures par semaine. Je gagne 300 euros bruts à la base, ce qui veut dire environ 250 nets. Avec les heures supplémentaires, je peux atteindre au maximum 440, 450, voire très difficilement 500.
Difficile pour lui de s'en sortir financièrement, même s'il s'estime chanceux de ne payer que 130 euros de loyer par mois.
Je paye mon loyer à temps, mais parfois je ne règle pas les factures d'eau ou d'électricité ou d'autres frais d'entretien de l'immeuble. Ce n'est pas facile avec 400 euros de payer tout ça et de tenir jusqu'à la fin du mois. Une fois les factures payées, il y a aussi les autres dépenses. Tu t'y habitues tant bien que mal. C'est comme ça. Aujourd'hui, dans la restauration, tu gagneras partout le même salaire. Parfois, les employeurs ne te facilitent pas la vie. Cela te met un peu la pression.
Alors que les élections législatives ont lieu l'année prochaine, Dimitris espère que la hausse du salaire minimum ne sera pas qu'une promesse de campagne. En Grèce, la baisse brutale du salaire minimum a été décidée en 2012. À l'époque, il était de 751 euros bruts mensuels et un travailleur sur 10 le touchait selon la Confédération générale des commerçants et des artisans en Grèce. Aujourd'hui, leur nombre a augmenté, c'est le cas d'un travailleur sur deux, mais la somme, elle, a été réduite à 511 euros bruts pour les moins de 25 ans et 586 euros pour les autres. Pour Yorgos Kavathas, le président, cette baisse a été catastrophique pour les entreprises elles-mêmes.
La baisse du salaire minimum, ça a d'abord été une baisse des revenus disponibles pour les citoyens. Donc, une grande partie de leur capacité à consommer a disparu. Par conséquent, le chiffre d'affaires des entreprises a diminué. Beaucoup de sociétés ont disparu et l'emploi avec. Cette mesure a eu le résultat exactement inverse de ce qu'espéraient les créanciers et le gouvernement à l'époque.
Depuis 6 ans, c'est le gouvernement qui fixe le salaire minimum. Avant, c'était les partenaires sociaux. La Confédération générale des commerçants et des artisans demande à récupérer cette compétence. Ils craignent un changement à nouveau trop radical et rapide.
Nous, nous savons ce qu'il se passe véritablement dans l'économie réelle. À l'heure où nous parlons, les indicateurs économiques montrent une amélioration, mais elle n'a pas d'impact réel dans l'économie, sur le marché. Donc, une augmentation arbitraire du salaire minimum peut ébranler les entreprises du pays.
Au ministère du Travail et de la Cohésion sociale, on répond que ce sont les créanciers qui ont refusé le retour à l'ancien système, celui où les partenaires sociaux décidaient du salaire minimum national et non pas l'État. L'État qui vient de rétablir deux principes du droit du travail. Ils avaient été abolis en 2012 et avaient favorisé la baisse globale des salaires, explique Nassos Iliopoulos, secrétaire d'État en charge de ces questions.
Ils ont supprimé le principe d'extension des conventions. Un employeur pouvait dire « je ne fais pas partie du syndicat patronal qui a signé cette convention, donc je ne l'applique pas dans mon entreprise ». Et le principe de la réglementation la plus favorable a lui aussi été supprimé en 2012. Cela voulait dire qu'un employeur pouvait faire signer des contrats directement aux employés avec des conditions bien moins favorables que celles de la convention établie dans sa branche.
Des accords de branche qui sont de nouveau possibles. Récemment, les représentants des employés et des employeurs du secteur de l'hôtellerie ont par exemple signé une convention qui fixe un salaire minimum de 780 à 850 euros bruts mensuels, spécifique à cette branche, soit bien plus que le salaire minimum national qui doit être réformé. Pour Nassos Iliopoulos, difficile de faire plus pour l'instant.
Il faut rester prudent car la Grèce est plutôt isolée dans ce domaine. Sur le marché du travail, c'est le libéralisme qui prime en ce moment en Europe. Nous sommes contents que le chômage ait baissé de 7 points depuis que nous avons été élus, mais il reste bien trop élevé, à 19%. C'est comme si on demandait à un convalescent qui sort de l'hôpital de se mettre à courir. C'est impossible. Il faut y aller pas à pas, voir si on arrive à tenir sur nos pieds et s'attaquer aux problèmes qui ont eu des effets très négatifs socialement.
Les restrictions du salaire minimum pour les moins de 25 ans devraient être abolies. En revanche, toujours aucune indication concernant le montant de la réévaluation du salaire minimum. Et reste un autre problème important en Grèce, le travail au noir a explosé pendant la crise. 2 travailleurs sur 10 étaient concernés en 2015, selon Nassos Iliopoulos. Depuis, il aurait baissé de près de moitié, explique le secrétaire d'État au travail. Mais il reste un moyen habituel d'échapper au changement de réglementation.
Début septembre, il remportait un prix scientifique prestigieux, le Kerber Prize, à la hauteur de ses recherches sur la paléogénétique. Cette science s'intéresse à l'extraction et à l'analyse de l'ADN sur des restes fossiles et c'est ce qui a permis de faire ces dernières années des découvertes majeures sur l'histoire de l'humanité. D'où venons-nous? C'est finalement à cette question existentielle que Svante Paabo tente de répondre depuis des années déjà. Benoît Derrier.
C'est à Svante Paabo que l'on doit en 2010 l'identification d'une nouvelle espèce d'hominidée, l'homme de Denisova, par le décodage d'ADN fossile sur la phalange d'une jeune fille ayant vécu il y a 40 000 ans dans les montagnes de l'Altaï, dans le sud-ouest de la Sibérie. C'est encore l'équipe du biologiste suédois qui, la même année, publie la séquence presque complète de l'ADN de Néandertal, montrant au passage que 1 à 3% d'ADN de Néandertal est encore présent dans le génome de l'humanité aujourd'hui, en Europe et en Asie. Homo sapiens et homme de Néandertal se sont donc unis il y a 50 000 ans. Et Svante Paabo ne s'arrête pas là, car il a annoncé au mois d'août dernier dans la prestigieuse revue Nature avoir trouvé l'os d'une adolescente née d'une mère néandertalienne et d'un père denisovien. Ces découvertes spectaculaires ont été rendues possibles par la résolution d'un casse-tête dans l'analyse de l'ADN fossile, celui de la contamination des échantillons par de l'ADN contemporain. Svante Paabo a ainsi conçu la première salle blanche pour l'extraction de l'ADN ancien à l'Institut Max Planck qu'il a fondé en 1997 à Leipzig en Allemagne. Peut-être recevra-t-il un jour un prix Nobel, à l'image du biochimiste suédois Sune Bergström, dont il est l'enfant illégitime. Il déclare d'ailleurs non sans esprit que les gens qui s'intéressent aux origines ont souvent eux-mêmes des problèmes d'origine et que ça n'est sans doute pas un hasard s'ils cherchent aujourd'hui de l'ADN. Quoi qu'il en soit, à travers ces mises à jour retentissantes, Svante Paabo a fait entrer la paléoanthropologie dans une nouvelle ère et il est indiscutablement l'un des plus grands scientifiques de notre temps.
Oui, monsieur, madame, c'est pas comme ça, oui, pas les Français.
Direction l'Arménie, qui accueille jusqu'à ce soir le 17e sommet de la francophonie. Ce petit pays de 3 millions d'habitants, dont 6% de francophones seulement, organise ainsi son premier sommet international. À Yerevan et à Gyumri, deuxième ville d'Arménie, l'association française La Caravane des mots en profite pour proposer des ateliers entre les caravaniers, les artistes francophones et des étudiants arméniens. À travers le théâtre ou le slam, l'association fait dialoguer les différents visages de la francophonie. Et c'est le reportage de Constance Léon.
Allez, venez, soyez avec nous. 15 étudiants arméniens discutent assis en tailleur sur la scène du centre social Andanik de Gyumri. Andanik, c'est la famille en arménien. Les jeunes discutent autour de la question de l'identité. En arménien pour les élèves et en français pour les artistes canadiens, camerounais et maliens. Le slammer malien dynamique vient de Bamako. Il est aussi écrivain. Pour le poète, cette rencontre est l'occasion d'une union autour de la langue française.
Je vais vous faire écouter un slam, moi, qui m'identifie. Une fois de plus, l'histoire reprit sa vitesse de croisière. Et les sages d'entre les sages, le premier du nom et des rangs, parmi les sages, il prit la parole en ces termes et il dit « Mon fils, la parole est sacrée, nul ne peut l'apprivoiser en soi. L'araignée d'islam m'a piqué à la gorge et du coup a changé mon identité. Né à Miosai, on m'appelle désormais Dynamique pour la force d'islam. Recevez ces quelques vers en guise de salutation. Slam.
Lucine Arakané lève la main pour participer à l'atelier de slam. Elle est traductrice et professeure d'anglais à Gyumri. La jeune fille de 21 ans est fière de sa ville. Pour elle, Gyumri est le centre culturel de l'Arménie, un peu comme Paris pour la France.
Comme vous le savez, l'anglais est une langue internationale. C'est aussi l'un des meilleurs outils pour aller à l'étranger. Le français reste une langue importante, la langue de la culture et de l'amour. Peut-être qu'un jour, si j'ai la chance d'aller à Paris, je pourrai leur dire ça dans leur langue.
Parce que j'adore français.
Pendant l'atelier, Arnold Kouagamé filme les réactions des étudiants. Ce slameur de 29 ans vient de Douala au Cameroun. Pour lui, la langue est un outil qu'il apprend aux jeunes à utiliser.
Il y a des jeunes qui se rapprochaient de nous parce qu'ils n'avaient jamais vu de noir en vrai. Donc c'est ça aussi ce côté de la caravane que j'aime beaucoup, cette façon de démystifier certaines choses. Donc la caravane, c'est l'art et c'est aussi ce côté humain qu'on rencontre dans les villes, partout où on va.
L'atelier s'achève par une démonstration de danse traditionnelle arménienne, une manière de passer outre la barrière de la langue.
C'est pas moi qui fais ça.
Dans une salle de l'université française d'Erevan, l'UFAR, six autres étudiants répètent une pièce de théâtre. C'est une scène quasi muette où chacun d'entre eux joue une émotion face à une feuille de papier vierge. Aude Maréchal, une comédienne française, et Blanca Josefova, une marionnettiste tchèque, réfléchissent avec eux aux différences culturelles et linguistiques de la francophonie.
Je ne sais pas, c'est ma question. Si en arménien, si on dit quand c'est ennuyeux, quand c'est un truc qui ne m'intéresse pas, blablabla.
Tu dis
en français quelque chose, je sais pas, ça ne m'intéresse pas, tout ça, je veux...
Vladimir Alexanian est un Arménien de 20 ans, né au Turkménistan. Il étudie à l'université slave d'Arménie. Il fait partie des 42 000 francophones sur une population arménienne d'environ 2,5 millions d'habitants. Soit moins d'une personne sur 10 francophones en Arménie.
Je parle, on peut dire, 5 langues, mais ma langue favorite, c'est le français, ma langue favorite. Et en 2013, mon père m'a dit que, voilà... Mon fils, tu dois apprendre français parce qu'il a beaucoup d'entreprises françaises.
Sophia Parlevarian étudie les relations internationales à l'université slave. La jeune fille arménienne de 18 ans comprend le français, mais ne le parle pas.
Pour moi, la francophonie, c'est un échange politique et culturel. Je veux que le français soit une langue plus enseignée ici, dans les écoles, les universités. J'aimerais que l'Arménie devienne francophone d'ici 20 ans.
Depuis son adhésion à l'Organisation internationale de la francophonie, l'Arménie est un pays francophile, mais peu francophone. Le pays détient la présidence de l'organisation pendant les 2 ans à venir, une occasion de changer la donne.
Merci beaucoup, c'était super.
Open House Dublin is Ireland's largest architecture festival, whose purpose is to open up buildings to the public. The whole program is really.
Et Julien Lagache nous emmène justement au festival Open House, événement gratuit qui permet chaque année au grand public de découvrir des éléments du patrimoine de la capitale irlandaise. Organisé par la Fondation Architecturale, il a pour but de présenter des bâtiments célèbres ou inconnus afin d'ouvrir une réflexion sur la création et le design urbain. Au total, plus d'une centaine de sites sont à visiter, des ministères aux maisons de particuliers.
Un open house désigne généralement la visite d'une propriété par de potentiels acquéreurs. Rien n'est à vendre pourtant dans les sites ouverts à la visite ce week-end, des bâtiments gouvernementaux, bureau du Premier ministre irlandais à la Cour de justice criminelle. Mais tout ce qui est à voir reflète le thème de cette année, le passé de demain, avec cette question, quel sera notre futur héritage, une façon de réfléchir à ce que sera le paysage dublinois de demain avec ce qui s'y dessine aujourd'hui. Or, le futur est déjà là, en particulier dans le quartier des docks, où nombre de multinationales ont élu domicile. Les anciens quais de chargement de marchandises ont disparu et laissé place à de grands bâtiments de verre où Facebook, Google ou Airbnb ont installé leur quartier général européen qui sont au menu de la visite. Tout autour, les bassins, le port lui aussi rénové font l'objet de différentes visites à pied ou en bateau afin de visualiser la reconversion d'anciens quartiers ouvriers en zones de bureaux et d'immeubles résidentiels. Le parallèle entre passé et présent se poursuit également dans le centre-ville avec un parc parcours sur le site d'anciens logements sociaux en cours de réhabilitation et un autre sur le thème des marchés aux fruits et légumes et leur avenir dans la ville. Et puis visite guidée toujours à pied le long de Cork Street, un grand axe aujourd'hui épicentre de nombreux chantiers entre lesquels survivent quelques vieilles bâtisses en briques rouges, elles aussi promises à une rénovation ou à la démolition. La promenade intitulée « Vie et mort d'une rue » entend expliquer ce qu'il ne faut pas faire en urbanisme à travers ce quartier qui change, tout comme de nombreuses maisons typiques de Dublin qui ouvrent leurs portes pour montrer comment le design d'intérieur peut redonner des couleurs aux traditionnelles maisons de plein pied à toit plat ou comment les façades au style géorgien peuvent abriter un intérieur très moderne.
Music.
Bonjour Vincent Teval.
Bonjour Catherine.
Alors Vincent part en Estonie aujourd'hui et vous nous faites découvrir une association heureuse entre folklore et musique électro.
Eh oui, association de musiciens qui ont pour principal point commun une certaine exigence dans l'approche de leur pratique. Maria Noot, d'abord, est une chanteuse et violoniste de formation classique qui s'est beaucoup intéressée aux musiques folkloriques estoniennes et a déjà publié 2 disques où elle les revisite brillamment. Et aujourd'hui, elle s'associe avec Hendrik Kaljujärv qui, sous le nom de Room, évolue dans le champ des musiques électroniques et expérimentales. Il a notamment travaillé comme ingénieur du son et designer pour un théâtre avant-gardiste de Tallinn. La collaboration entre Maria Noot et Room fait des merveilles au fil des 9 plages du très beau Munduja, minimaliste et rêveuse.
Vastu pilgesta pimedat kaske, kaske, kaske. Lähme kuuda kuulama ja kaske, kaske. Päevad avalatama ja kaske, kaske. Ihada imestama ja kaske, kaske, kaske. Kas on kulla kube seljas kaske, kaske. Või on päeval värka peassa kaske, kaske. Ihal hõbe helme heida kaske, kaske, kaske. Ei ole kuulla kube seljas kaske, kaske. Päeval aga pärka peassa kaske, kaske. Ihal hõbe helme heida kaske, kaske, kaske. Kuuse mängib kudrustega kaske, kaske. Päevaga mängib pärlestega kaske, kaske. Ja hõbelmestega kaske, 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 kaske.
Entre les bras rêveurs de Maria Noot et de Room. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine à la réalisation, bien sûr, Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr et puis sur notre page Facebook.